9h dans le bureau de Parjupiter.
Moi aujourd'hui j'en scoop à une.
Ouais, okay, c'est un scandale,
mais
scandale.
Oui, elle se dit de gauche, mais non.
C'est un cheval de Troie de la Macronie.
Oui, la seule différence entre Charline et Elisabeth Borne, c'est qu'elle est mieux coiffée.
Ouais, voilà. Alors que toutes les écoles de France sont en vacances, oui, nous faire revenir comme ça pour un Parjupiclasse.
Alors moi je me demande si on peut pas porter plainte pour esclavage.
Moi je devrais être en train de ramasser des champignons dans la forêt de Brocéliande.
Et voilà, moi de terminer mes vacances en Toscane.
Bah, écoute, on a qu'à faire la grève de Parjupiclasse.
Oui,
et c'est tout.
Debout, les damnés de Jupiter.
Ça va les garçons, je vous dérange pas là.
Bonjour madame la maîtresse.
Ah bah t'es là?
Bah oui, je suis là, oui.
Et bah tu tombes bien. Oui. Justement, on se disait avec Alex,
ouais, enfin, c'est surtout Guillaume se disait.
Non bah non, t'étais d'accord pour la grève.
Oui, mais hein,
moi j'étais plus pour une grève avec un service minimum.
La non, grève mais... carrément, on peut savoir quelles sont vos revendications.
Oui, là. Oui. Guillaume va les dire.
Oh le pleutre.
Donc allez-y, vous revendiquez.
Oui, ouais, nous revendiquons.
Non, alors nous revendiquons des choses déjà premièrement.
Plus de frites à la cantine.
Non, c'est pas ça qu'on avait dit.
Non mais ça serait déjà pas mal si on pouvait avoir ça.
Non mais voilà, c'est toujours pareil avec les réformistes, vous allez pas assez loin là.
Ah, mais c'est toujours pareil avec vous les marxistes, on vous donne ça et vous prenez ça.
Bah puis... oui, c'est l'inverse, on vous prend ça, vous donnez ça, espèce de jaune, sale bah, jaune.
Tiens, oui, Guillaume, voilà, toi tu prends ça, ah, et bon, toi Alex, bah tu prends ça, voilà.
Non, mais non.
Vous copierez 100 fois, Parjupiclasse n'est pas une réunion syndicale.
Oui, et pour les vacances, comment on
fait? Pour les frites à la cantine.
Eh ben vous mangerez des frites le 2 juillet, allez, au boulot. France Inter et bienvenue chez les barbares de la blagounette. Et voici la devise du jour. Goncourt, camarade. Éric-Emmanuel Schmitt est derrière toi. Bonjour Juliette Arnaud.
Bonjour Charline.
Il sera question d'un classique de la littérature sud-américaine. Aujourd'hui, le roman de Gabriel Garcia Marquez, L'amour au temps du choléra.
De toute façon, tu sais quoi, ça fait 34 pages que je lis, il n'y a pas encore une scène de cul dans le truc.
Salut Guillaume Meurice.
Bonjour Charline.
Vous avez tendu votre micro dans la rue en mode wokisme.
Oui, tout à fait, tout à fait. Je vais vous parler du concours de Miss France qui a attaqué en justice. Alors le peuple de France a peur, y compris les plus nobles représentants du féminisme.
Je sais quand on voit une belle femme, je suis obligé de la regarder. Puis,
vous l'avez reconnu, c'est le retour de Roger, bien évidemment.
Là, 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 là.
Pas de vacances.
Et la Jupi Masterclass du jour vous est proposée par le jeune réalisateur Léo Carman. Bonjour Léo.
Bonjour Charline.
Le film qui vous a marqué et que vous proposez de partager avec nos auditeurs, je pense que même à beaucoup vous donnerez le goût de le revoir, c'est le film de Chris Columbus avec Macaulay Culkin.
Oh.
Oui,
c'est
ma maman, j'ai raté l'avion.
Bon, alors ce qu'on fait, il y a un jeep des pompiers qui va vous déposer en bout de piste, là, Canadair sur Nice, une FAC Nice, Alpha Jet jusqu'au Bourget. T'es tout de malade, hein.
L'Alpha Jet,
il sera en bout de piste en Nice.
C'était la suite. Et voici celui qui ne rate jamais le Thalys, Alex Vizorek.
Mais c'est pas faux. Bonjour Charline Vanhoenacker. Laissez-moi vous présenter le reste de l'équipe. Il y aura l'impertinente de la langue, celle qui fait du français en hors-piste, la Hélène Carrère-Dancos, version punk. La Elia Véron, bonjour.
Bonjour Alex.
De quoi on va parler?
On va parler des cas où on dit qu'on ne dit pas, mais qu'on dit quand même. C'est les prétéritions.
Les prétéritions.
Ah, ouais, d'accord.
Ensuite, celle qui, depuis qu'elle sort des disques, n'a plus jamais été demandée comme babysitteuse, même par le père de son enfant, je crois. C'est Guédré, bonjour.
Et bonjour.
De quoi on va chanter?
Eh ben, on va parler d'un truc que les enfants n'aiment pas trop, c'est quand ils sont punis. On va parler des punitions.
Très bien. Et enfin, celui qui a été élevé à la Schlag, oui, l'Auvergne, c'est beau quand on la quitte, c'est Jamil Le Schlag.
Salut Alex. Salut
de quoi on va parler?
Du Parti Socialiste.
C'est pas vrai.
Ah, carrément.
Ah ouais.
Ah ouais, on y va.
Ça va être extrêmement
bien,
marrant.
Je vous expliquerai ce que c'est. Ajoutez à cela un journal jamais mensonger, des exercices à rallonger et un dessin pour prolonger et vous obtenez une émission qui devrait être encore en congé.
Oh là là,
bah oui,
là,
bah,
là,
bah,
c'est
oui.
Bah oui.
France Inter. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Non, par Jupiclass.
Au boulot.
Mais oui, Alex, au boulot, enfin. Bien sûr.
Mais tout le monde, ils sont en vacances, tous les autres, les petits. Et...
Ça se trouve, ils nous écoutent même pas.
Bah, voilà.
Eh bien, si on n'avait pas d'émission aujourd'hui, on ne pourrait pas accueillir Léo Carman.
Oui, c'est vrai.
Salut Léo.
Bonjour, bonjour.
Alors, en 2019, nous vous avions reçu dans cette émission pour votre premier film, premier long métrage, La dernière vie de Simon. Film fantastique, où vous avez même surnommé dans l'équipe le Spielberg français.
C'était très, très, très.
Très gentil. On l'avait trouvé très, très, très réussi, ce film. On vous le conseille, chers auditeurs. d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu. Et là, vous préparez votre donc, deuxième long métrage, c'est ça? Est-ce que ce sera dans une veine fantastique aussi? Vous pouvez nous dire deux, trois choses?
Alors, j'ai absolument rien de droit de dire, donc je vais en parler un petit peu.
Non.
Je le coécris aussi avec Sabrina Beccarine et c'est produit par Gaumont. Mm-hmm. Et c'est un très gros film familial, conte. Enfin, c'est un rêve de gosse de faire ça, donc on espère qu'on va pouvoir le faire.
Ouais.
On l'écrit en tous les cas pour le moment et on va tout faire pour pouvoir vous le montrer d'ici deux ans, peut-être,
Deux. Gros projet Gaumont, donc ça veut dire que La dernière vie de Simon, ça vous a ouvert des portes, ça a permis des choses.
Le truc positif, c'est que c'est sorti juste avant le confinement, donc personne n'a pu le voir au cinéma. Mais ce qui est bien, c'est que tout le monde a pu le voir en VOD, et ça, c'était super chouette, parce que ça nous a permis effectivement de pouvoir avancer sur d'autres projets après. Ouais.
Ah oui, alors comment vous avez fait pour qu'il puisse avoir une vie pendant le confinement, ce film alors?
J'ai envoyé des liens. À qui voulait un lien, j'ai envoyé un lien.
C'est-à-dire, là, dans ces cas-là, les réseaux sociaux sont très très utiles.
Oui, les réseaux sociaux, les copains, les réseaux des copains.
Ouais.
Voilà, non, et puis ensuite, effectivement, cette boucle géniale qui se passe quand on partage. Non, voilà, c'était vraiment... Ouais. Puis surtout, le fait que tout le monde soit devant les écrans, on se demande quoi regarder en famille.
Ouais.
Et comme c'est un film familial, là, pour le coup, c'est plutôt bien tombé.
Donc c'était un bouche à oreille par Zoom et Skype.
Exactement.
C'est formidable. Alors, je rappelle, il y avait comme premier rôle dans ce film, Benjamin Voisin. Et il est le premier rôle dans Illusion perdue, le film de Xavier Giannoli. Et quel premier rôle? Il joue Lucien de Rubempré dans un film qui cartonne en ce moment. Énorme succès, vous avez eu le nez creux avec Benjamin Voisin.
C'est-à-dire que c'est tellement un comédien formidable que quand il est arrivé aux essais, c'était évident, quoi. Donc ça m'étonne pas, et tant mieux pour lui qu'il continue de travailler, qu'il ait des rôles pareils.
Léo Carman, on attend votre Jupi Masterclass de cinéma donc à la fin de cette émission.
Ça va parler Noël et traumatisme d'abandon.
Très bien. On a hâte. Et quant à celle que nous allons entendre maintenant, elle nous a taillé un joli costard aux académiciens dans sa précédente chronique lundi. Et je peux vous dire, c'était pas une veste brodée. C'était plutôt, je dirais, un MBI en matière inflammable, doublé crépi à l'intérieur. Et elle est aussi vive que la langue est vivante. Voici notre linguiste et stylisticienne, Laëlia Véron.
Merci Charline. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la prétérition, le fait de dire qu'on ne va pas dire quelque chose mais qu'on le dit quand même. Ça peut prendre la forme du compliment. Par exemple, si je dis « Nul besoin de souligner Charline à quel point vous êtes rayonnante aujourd'hui ». Voilà, c'est une prétérition. Ou de l'injure, si je dis « Je ne m'abaisserai pas à vous dire à quel point vous êtes tous ici des gauchiasses de bas étage ». Autre exemple de prétérition. Je dis que je ne vais pas le dire, je le dis quand même. Un autre exemple, c'est la sénatrice Sophie Prima qui avait fustigé à la condamnation de Nicolas Sarkozy, une des condamnations, en tweetant « J'aurais bien envie de commenter cette décision de justice, tant je la trouve disproportionnée, je ne le ferai pas. » Donc elle l'a déjà fait au moment où elle dit qu'elle ne le fera pas. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en prétendant ne pas dire, souvent on dit encore plus. Pourquoi ? On va essayer de décrypter ça en distinguant deux types de prétérition. Il y en a une qui cherche à dissimuler et elle va jouer sur la frontière de ce qu'on appelle le posé et le présupposé. Le posé, c'est l'information majeure. Le présupposé, dans une phrase, c'est l'information secondaire, supposée, connue, évidente ou partagée par tout le monde. Quand je dis « je ne commenterai pas cette décision de justice injuste », je pose le fait que je ne commenterai pas, je présuppose que c'est injuste. Et donc c'est un bon moyen de faire passer un contenu sans l'examiner de trop près. Si je dis au milieu d'un discours sur le chômage, il n'est pas besoin de préciser qu'il faudra appliquer rapidement cette réforme nécessaire. La prétérition fait passer comme évident, non discutable, quelque chose qui ne l'est pas forcément, que la réforme est nécessaire. Mais il y a aussi une prétérition qui n'est pas une dissimulation, mais au contraire une mise en valeur, non seulement du contenu, mais de l'acte de discours lui-même. Un bel exemple de ça, c'était le communiqué du NPA au moment de la mort de Chirac, qui commençait en disant « Ce n'est pas le moment de faire de la politique, il faut respecter le temps de deuil ». Donc, le communiqué, vous voyez la suite. Hein. Le communiqué prétendait respecter une injonction généralisée à ne pas critiquer une personne qui vient de mourir pour finalement faire l'inverse, sous forme de prétérition, en disant « Nous n'évoquerons pas les affaires, emploi fictif, marché public, HLM, etc. » En disant ensuite « Ce n'est pas non plus le moment de se souvenir des déclarations de Chirac sur le bruit et l'odeur, etc. etc. » Et ici, le fait de nier, le fait de dire tout en disant, permettait non seulement de dire, mais de souligner qu'il aurait fallu dire. Finalement, le communiqué était encore plus critique que s'il s'était contenté de critiquer directement Chirac, parce que non seulement il rappelait tous ces faits-là, mais en jouant sur la prétérition, il critiquait aussi l'injonction finalement très politique à ne pas parler politique à ce moment. Donc la prétérition, c'est une figure qui va tricher avec l'énonciation pour embarrasser l'interlocuteur, puisque la personne qui parle se garde d'assumer la responsabilité du discours. D'ailleurs, pour plus de détails, je renvoie à ma source et recommandations. C'est un article de la linguiste Francisca
Alors, je vais peut-être bugger sur son nom. Franziska Snöck-Henkemann sur la prétérition comme outil de stratégie rhétorique. Et pour finir, j'évoquerai une figure qui se rapproche de la prétérition lorsqu'on prétend ne faire que citer quelqu'un d'autre. Dupont-Moretti avait ainsi écrit en 2017 à BHL qu'il regrettait de n'avoir ni le talent ni l'audace de Magritte, qui avait écrit un critique qui n'était qu'une vieille pompe à merde. Et Magritte lui-même avait écrit à ce critique « Tout le monde m'assure que vous n'êtes qu'une vieille pompe à merde et que vous ne méritez pas la moindre attention. Il va sans dire que je n'en crois rien. » Là, non seulement il y avait prétérition, mais aussi mise en abîme de la prétérition. Mise en abîme, ce sera peut-être une autre figure qu'on étudiera dans une prochaine chronique.
Oh, là, il y avait rond, merci. Donc la prétérition est pas mal utilisée en politique, j'ai l'impression.
Oui, par Guillaume Meurice aussi. Ah,
c'est vrai que je pratique régulièrement.
Ouais. Eh bien, nous ferons attention lors de sa chronique, Laëlia, grâce à vous, merci. Je rappelle, Laëlia Véron, que vous êtes maîtresse de conférence à l'Université d'Orléans. Je dis ça, c'est pour le courrier que vous voulez envoyer suite à la chronique de lundi sur l'Académie, on ne sait jamais, hein, parce que nous, on est déjà pas mal sollicité par le courrier. Voilà. Je signale aussi votre compte Twitter, où les auditeurs réagissent abondamment à vos chroniques, Laëlia, et vous êtes très interactive. Vous écoutez Par Jupiter, il est 17h18, musique.
Personne t'aime. Ah ouais, je me disais bien. Personne t'aime. Ah ouais, je me disais bien. On m'appelle pas, on m'invite pas dans les soirées. Watchy watcha, je dois pas sentir comme il faudrait. L'argent et le succès, et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe. Ah 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 ah. Ma tenue de combat, avec ça vous ne ferez pas le poids. J'ai payé quand même un peu cher pour un truc qui laisse dans la galère. J'ai changé plein de fois de messagerie, mais personne m'a encore dit oui. On t'appellera, t'inquiète pas, si ça nous plaît. Ouais ouais, c'est ça. Blablabla, si ça nous plaît. Ouais, ouais, c'est ça. Je dois pas sentir comme il faudrait. Le money et le succès. Et ça me vexe. Et ça me vexe. Et ça me vexe. Et ça me vexe. Ah 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 ah. Dans les soirées, ouais, ben tant pis pour toi. Ah, 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 ah.
C'était Mademoiselle K, ça me vexe, et j'espère que le magnéto a tourné pendant le disque parce que Juliette a chanté tout le long. Et ça fera un beau making-of.
Oh. J'en ai marre.
Non, non, Juju, allez, restez.
Non, non, j'étais à côté, non.
Et vous, chez vous, vous avez chanté aussi, j'en suis sûre, chers auditeurs. Vous écoutez France Inter, vous écoutez Par Jupiclasse et l'information tout de suite. Les vacances, c'est aussi un temps où on apprend différemment, en faisant du sport,
en ayant des activités culturelles, en chantant, en faisant des jeux.
Le journal de presque 17h17.
Je te rappelle que je suis pas vraiment en vacances, je suis au chômage.
Et attention prétérite, il va sans dire qu'on commence par les titres.
Et si, parce que l'ex-auditeur.
Oui, oh, ça va, ça va.
Vous réécouterez la chronique,
oh,
Alex.
Ça va, j'essaye de mettre en pratique très vite et puis c'est un échec.
Allez, on y va. L'ex-otage Sophie Petronin est retournée vivre au Mali.
Et oui, elle doit avoir de sérieux problèmes de géographie parce qu'on parle du syndrome de Stockholm et non du syndrome de Bamako.
Depuis 9h22 ce matin, les femmes travaillent gratuitement.
Alors, si Pénélope Fillon nous écoute, travailler.
Non, mais ça va, elle sait ce que c'est, elle l'a jamais fait, mais elle voit quoi. Okay. Je veux dire, avancez,
si
avancez.
Pénélope Fillon nous écoute gratuitement.
Ah c'est... Oui, non, bah, d'accord, oui,
pas
des
brèves. Des brèves. Par solidarité avec les bonnes femmes, j'ai bossé bénévolement sur les deux. Bref, c'est pour moi, c'est cadeau.
J'hésite à rester, je vous préviens.
De toute façon, vous n'êtes plus rémunéré, donc, mais restez quand même pour surveiller. Commençons.
Si j'y vais maintenant.
Non, mais elle ne le fera pas, allez-y, Alex. Elle n'osera pas faire ça.
Non, wow, non, je... Ne tombez pas dans ce piège.
Le vrai problème, c'est que si vous donnez le journal à Guillaume, ça va être hilarant. Et là, après, qu'est-ce qu'on fait? Oui, je tente. Ouais. Je joue toutes les méthodes.
On est à l'antenne, hein,
toujours. Oui, pardon.
Vous
le faites bien tout seul, hein, parce que là, il y a une assurance, il y a un monologue, il y a tout faire pour le faire tout seul.
Il y a du mansplaining
de qualité. Pourquoi vous auriez besoin de Guillaume?
Commençons par cette nouvelle qui a surpris la France.
Sophie Petronin, détenue pendant 4 ans au Mali et qui était rentrée en France en octobre 2020, est retournée au Mali dès le mois de mars qui a suivi.
Eh oui, c'est horrible la première fois, mais elle y retourne quand même, ce qui lui fait un point commun avec Macron, qui va probablement se représenter à l'Élysée.
Oui, bah, qui sommes-nous pour juger,
hein. Exactement, qui sommes-nous pour la juger? Elle me fait penser à Christine Kelly, parce que je pense qu'elle aussi, elle serait prête à refaire une saison avec Éric Zemmour.
Marine Le Pen a écrit une lettre au président de la République pour l'alerter sur ses difficultés à trouver des financements pour sa campagne, sur quoi Emmanuel Macron a opposé une fin de non-recevoir.
Et encore, il était cool, il aurait pu lui mettre une amende pour mendicité.
Bah, elle espérait quoi aussi?
Macron, c'est pas le genre à promouvoir la cistana non plus.
Voilà. Et on apprend que la conférence d'Éric Zemmour, qui s'est tenue le 29 octobre à Pleurtuit en Bretagne, a été organisée par un certain Luc Taché, un ex-néo-nazi.
Alors, quoi, un ex-néo-nazi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que du coup, je demande à la linguiste, ça nous fait un nazi? Je ne sais pas.
C'est compliqué. Culture à présent, culture. L'auteur sénégalais Mohamed Mougar Sarr remporte le prix Goncourt à 31 ans.
Mohamed Mougar Sarr. J'imagine qu'il y a des électeurs du Rassemblement National qui vont se dire cette année, on va pas acheter le Goncourt parce que.
Ben.
Oui, c'est vrai, ça va pas changer grand-chose au ventre du
voilà,
Goncourt.
Voilà, bah c'est ça. Allez, quant au prix Renaudot, il est attribué à notre compatriote. Oui, Amélie Nothomb, pour son roman Premier sang.
Oh, la fourberie! Vous veniez de dire qu'à partir d'aujourd'hui, les femmes ne gagnaient plus rien. Ah, ben ça, c'est une belle entourloupe de féministes. Elles ont gagné quand même. Eh ben voilà.
Excusez-moi, Juliette.
International? Aux États-Unis? De toute façon, si je ne fais pas le titre, vous pouvez pas faire la blague.
Je venais que j'attends.
Vraiment
tension.
Si je ne fais pas le titre, il n'y a pas de blague.
C'est ça, c'est
mais j'y vais quand même.
Même si vous faites le titre, peut-être des fois, il n'y a pas de blague.
C'est vrai, il n'y a pas de blague. Parfois, vous allez voir, parfois, c'est l'information qui est plus drôle que la blague. Vous allez voir. Aux États-Unis, des centaines d'adeptes du mouvement complotiste QAnon se sont réunis ce mardi à Dallas.
Dans l'espoir que le fils de John Fitzgerald Kennedy apparaisse.
Pour leur annoncer le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis.
Alors que JFK Jr. a été victime d'un accident d'avion mortel en 1999.
Ouais. Et quoi, vous faites pas de blagues alors?
Parce qu'on l'a dit, c'est l'info plus drôle que la blague.
C'est votre part de féminité, vous n'avez pas travaillé. Alors, technologie, Microsoft veut entrer dans le métaverse et proposera des réunions Teams par avatar interposé. Ok, donc là, pas de blague.
Non, mais là, ça valait pas la peine. Vous entendre dire des trucs dont vous bitez pas, c'est suffisamment drôle pour l'auditeur, je pense.
Okay. Du coup, peut-être, j'imagine, vous des petites brèves, éventuellement.
Oui, ça, j'en ai.
C'est facile, c'est la facilité.
Alors qu'il souhaitait lundi une excellente fête de la Toussaint aux catholiques sur Twitter, Gérald Darmanin a été invité par le Secours catholique à relire les évangiles. Bref, le jour de la Toussaint, il aurait mieux fait de faire le mort.
Allez, parce que dans ma générosité, ouais, une dernière.
Parce qu'elle est bien. Colombie, un mannequin aide sa mère à s'évader de prison en distrayant le gardien. Carla Bruni l'aurait immédiatement contacté pour lui demander plus de précisions.
Merci. merci Alex Vizorek.
Bonheur, rien, Charles, oh là toujours là un bonheur. Là vous seriez malheureuse sans moi, je pense.
Ce duo, on va finir aux deux ânes. Je pense que vraiment, là, c'est vraiment tout ce qui nous attend, Alex.
Les gens vont aimer. L'auditeur vieillit aussi, vous savez.
Oui, bah,
ça fait 8 ans qu'on est là.
Nous aussi, hein, bien sûr. Oh là 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 là. Ou alors on pourrait faire les chiffres et les lettres. Un truc de vieux. Motus, je sais pas. Bon, allez, on enchaîne. Juliette Arnaud, il est question avec vous de littérature sud-américaine avec un prix Nobel, Gabriel Garcia Marquez. Vous auriez pu choisir 100 ans de solitude. Vous avez préféré l'amour au temps du choléra. Voilà.
Et l'amour au temps du choléra, donc le roman s'ouvre avec un vieux médecin qui vient constater le suicide d'un homme dont le patronyme est Saint-Amour. Quand un écrivain choisit un titre comme l'amour au temps du choléra, qui est pas exactement anecdotique, et puis choisit de nommer le personnage qui ouvre son récit Saint-Amour, croyez-moi, il l'a pas fait à pouf-pouf. Il y a forcément un sens, une raison, un message. Et le plus simple, ça serait de penser « Oh mon Dieu, l'amour est mort !» L'amour s'est suicidé. Mais non, c'est pas ça. Et puis on apprend que Saint-Amour s'est suicidé à l'aube de ses 60 ans parce qu'il ne voulait pas devenir vieux. Enfin, plus vieux en tout cas que ça. Là, on peut se dire « Ah d'accord, Saint-Amour a préféré avaler son bulletin de naissance parce que l'amour, c'est un sport de jeunes. » Et ben là, on est un couillon. Et c'est ce que va nous démontrer Gabriel Garcia Marquez. L'amour, c'est aussi un sport de vieux. Sauf qu'au départ,
Excusez-moi, je le dis depuis longtemps.
Mais vous allez mettre votre nez partout.
Non, j'ai regardé Guillaume, on a rigolé. Voilà. On voulait pas interrompre.
On a ris sous le cap, on avait une petite cape et on a ris.
Bah, c'est fait, c'est fait. Oui, poursuivez, Juliette.
Bon, ouais, voilà. Sauf qu'au départ du roman, les protagonistes de l'amour au temps du choléra, ils sont très jeunes. Oui, oui, c'est comme ça. Les gens très âgés, un jour, ils ont été infiniment jeunes. Plus ébouriffants encore, figurez-vous, ils s'en souviennent. Donc, lorsque les protagonistes sont très jeunes, ils vivent sur le littoral caribéen de la Colombie, dans une ville qui est brassée par l'embouchure du fleuve Magdalena, et puis par les mélanges des peuples de couleur de peau, et puis par les guerres civiles, aussi chroniques que les épidémies de choléra. Et on est à la fin du 19e siècle, il y a un jeune homme, Florentino, rêveur, myope, mal né. Son père est mort sans l'avoir reconnu, mais il a une mère aimante. Musicien et apprenti télégraphiste, et il tombe amoureux, dingue, d'une jeune fille, Fermina, à la démarche de biche, mais au caractère teigneux, mal né également. Elle, c'est sa mère qui est morte, elle a un père un peu riche, mais qui a des activités abondamment malhonnêtes. Et là, l'expression « tombe amoureux » pour une fois est juste, même si elle est faible. C'est pas une chute, c'est un effondrement, c'est une telle dégringolade que la mère de Florentino, elle pense, au vu des symptômes, que son fiston chéri est foutu d'avoir chopé le choléra. Parce que c'est l'époque du choléra. Et puis non, c'est l'amour. L'amour, 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 dont on parle toujours. Et rassurée, sa mère de lui dire « Florentino, profite de ce que tu es jeune pour souffrir autant que tu peux, ça ne durera pas toute la vie. » Bon, bah là, la dame, clairement, c'est pas Madame Irma, parce qu'on est page 92, et nous, lecteurs et lectrices, on sait que la brave dame, donc, c'est pas Madame Irma, vu que page 77, on a vu Florentino, 50 ans après sa première rencontre, se pointer le lendemain de l'enterrement du mari de Fermina, le vieux docteur du début. C'est-à-dire que, oui, Fermina et Florentino, ils se sont pas mariés. Eh ben oui, les minous, parfois les gens qui s'aiment, ils se marient pas. Et oui, parfois les gens qui se marient, ils s'aiment pas. La vie, c'est plus compliqué que les Playmobil. Donc, ils se pointent le lendemain de l'enterrement du mari de Fermina pour lui réitérer, et je le cite, son serment de fidélité éternelle et son amour à jamais. Presque 51 ans plus tard, le gars se pointe et réitère. Oh, mamine! C'est si mamine! Pensez-vous dans un premier mouvement tendre, en oubliant que le corps du mari, il est à peine froid.
On n'a pas oublié ça.
Et puis que je vous avais dit.
J'ai bien écouté, je trouvais que c'était limite. Ah, on est bien d'accord.
Et puis je vous avais dit que si Fermina, elle avait une démarche de biche, elle avait également, en restant dans la parabole animale, un caractère de sanglier. De sorte qu'elle lui répond à Florentino, file et ne te fais plus voir tant que tu sors en vie et j'espère que t'en as plus pour longtemps. C'est raide. Mais elle est ainsi, Fermina, vous vous y habituerez. Et là, on n'est que page 77. Il reste 400 pages pour arriver à la fin de l'amour au temps du choléra. Mais alors, quel genre d'amour Garcia Marquez a-t-il tissé sur ces 400 pages? Patience, ça c'est pour la semaine prochaine. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, merci, on attend impatiemment mercredi prochain, donc pour la deuxième partie. Léo Carman est avec nous, puisqu'on attend votre Jupi Masterclass de cinéma à la fin de l'émission. Vous, comme vous êtes scénariste et réalisateur, est-ce que l'adaptation de romans vous titille parfois? Est-ce que la littérature nourrit votre travail de scénariste?
Pas du tout.
Non.
Mais non, mais pas. Non, mais si, absolument. Non, je rigole parce qu'on a un projet.
Je déteste les récits, va-t-il dire.
Non, quel roman, alors
Je ne sais pas, Guillaume, sur quel roman on pourrait travailler. Non, si.
Il y a possiblement un projet. Peut-être qu'on boit des bières avec Léo et qu'on réfléchit à une adaptation d'un roman qui s'appelle Le Rouennais et Paris.
C'est pas vrai votre roman. Ah, mais vraiment, je dois dire aux auditeurs que je ne savais pas.
Mais
je vous jure.
Avec l'argent du contribuable, on est en train de faire ça.
Mais c'est super difficile, il va falloir trouver quelqu'un de très très laid.
Votre micro n'est pas allumé.
Je rappelle parce que cela concerne le bouffon du roi Triboulet.
Voilà, qui n'était pas bien beau.
Exactement, voilà. Ah bon, bah, très bien. Bah, écoutez, j'ai mis les pieds dans le plat sans faire exprès.
Bah, non, bah, c'est l'occasion.
Formidable, voilà. D'accord.
Donc on cherche des financeurs.
Ouais. N'oubliez pas de réfléchir, ne faites pas que boire des bières tout à l'heure. Ouais, alors, on suivra le projet.
Bon, bah, on sent quand même une gêne. Je me demande si c'est pas Guillaume qui a insisté et que Léo n'avait pas du tout envie de ce projet. Enfin, excusez-moi de.
J'ai des dossiers sur Léo, donc.
Je vous rappelle qu'on est écouté, qu'on est en direct, il faut le dire aussi.
De moins en moins.
Voilà, bah oui, c'est sûr. Mais tous les gens sont partis. Si tout le monde est parti, allez-y, discutez-en, hein, tant qu'on est là. Alors, il y a des destins tout tracés parmi nous. Regardez, il y a 9 ans, Alex, dans une émission qui s'appelait Le 75 Minutes, nous avions invité une jeune chanteuse et elle avait chanté Le Clash aux enfants.
Et oui, et aujourd'hui, c'est fou, elle se retrouve apaisée dans une émission pédagogique. C'est incroyable, c'est Guédré.
Tout à fait, très apaisé. Allez les enfants, on écoute bien. Quand tu fais un truc pas bien, tu es puni. Pas de dessert, pas de câlin. Pipi, les dents et au lit. On peut te dire d'aller au coin ou d'écrire 50 fois. Je ne demanderai plus au voisin pourquoi il n'a qu'un bras. Tu peux être privé de console ou privé de vidéo. Ou si t'as vraiment pas de bol, devoir regarder l'heure des pros. Si tu trouves pas ça marrant, les punitions. Profite par contre qu'en grandissant, ça devient un peu plus coton. La pri-pri, la zonzon, vive la prison. Pour punir les méchants, c'est la meilleure solution. En pri-pri, en zonzon, on les met tous en prison. Parce qu'ils sont très méchants et qu'il n'y a pas d'autre solution. Quand tu es grand et que tu n'es pas sage, on te met avec d'autres grands dans de petites cages. Si tu aimes les animaux, cet endroit est fait pour toi. Il y a des cafards à gogo et on peut caresser des rats. Si t'aimes les soirées pyjama, tu vas voir, c'est super. Dormir assis au même endroit, 4 dans des lits et 2 par terre. Et puis pas de chichi s'il vous plaît, ça peut être sympa qu'ils soient tous à côté. Quand tu fais caca, la pri-pri, la zonzon, vive la prison. Pour punir les méchants, c'est la meilleure solution. En pri-pri, en zonzon, on les met tous en prison. Parce qu'ils sont très méchants et qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais comme dans toute situation, il faut garder espoir. Car parfois la prison, c'est pas obligatoire. Il suffit pour cela de bien choisir ta bêtise. Car toutes ne méritent pas 10 ans ferme aux assises. Au lieu de dealer du shit, deal plutôt avec Kadhafi. Et fraude le fisc au lieu de voler au franc prix. Provoque une marée noire au lieu de taper dans la caisse. Et plutôt que faire le trottoir, prends le dégosse après la messe. La pri-pri, la zonzon, vive la prison. Pour punir les méchants, c'est la meilleure solution. En pri-pri, en zonzon, on les met tous en prison. Parce qu'ils sont très méchants et qu'il n'y a aucune, mais vraiment aucune autre solution.
Et avec votre nouvel album, les chansons romantiques au piano, je rappelle que vous êtes en tournante et que vous passez le 12 novembre à Toulon et le 20 novembre à Auze, c'est dans le Gers. Et plus précisément d'ailleurs dans le Bas Armagnac, tu vois ce que je veux dire.
On ne choisit pas les dates au hasard.
Oui, voilà. Donc on boira un coup à votre tour, bien sûr. Mettez un petit flacon dans le sac, hein, pour le dire tout.
Une petite place, bien sûr.
Merci Guédré, revenez vous asseoir près de nous. Alex, qui est là?
Eh ben, on a déjà entendu Guédré, Juliette Arnaud et Laëlia Véron pour tout ce qui était gaudriole et rire potache. Passons au sérieux, à l'analytique, avec l'équipe des hommes. Sam Carman, Jamil Lechlag et surtout celui que le Collège de France nous envie, le département anthropologie, puisqu'il est l'homme qui connaît le mieux cet animal sauvage et insaisissable qui est le français.
Oui.
C'est vous, Guillaume.
Et je l'aime d'amour. Une chronique dans ce par Jupiclas pour les pitchounes, mais surtout pour les pitchounettes. Aujourd'hui, parce que je vais vous parler du concours de Miss France, le fameux concours de beauté qui a lieu chaque année, donc une sorte de salon de l'agriculture, mais avec des zouzes, hein, finalement. Je n'aurais pas l'inélégance de rappeler que c'est aussi l'occasion de rendre hommage au chirurgien esthétique de Jean-Pierre Foucault. Hein, c'est toujours une fois par an, on a rendez-vous avec ça. Eh bien, figurez-vous que l'association Oser le féminisme, présidée par Yvan Rioufol, non, je plaisante, c'est pour voir si vous... Restez concentrés, hein, les pitchounes. Pour voir si vous suiviez. Alors, Oser le féminisme a attaqué le concours de Miss France en justice pour non-respect du code du travail et discrimination. Parce qu'il y a des critères pour être Miss, il faut moins de 24 ans, faire plus de 1m70, être célibataire et connaître par cœur l'intégrale de Camaro. Donne-moi ton cœur bébé, ton corps bébé. Je suis pas sûr pour le dernier critère, mais en tout cas, il y a des critères. Si, j'ai oublié un critère, casier judiciaire vierge. Donc, avec une condamnation, tu peux être député de la République et voter les lois, mais tu ne peux pas présider le concours de la plus grande saucisse de Francfort. Voilà, c'est comme ça, et vive la France. Alors, le peuple, justement, de France, qu'est-ce qu'il en pense, déjà, de cette association qui a attaqué, donc, le concours de Miss France?
Ils sont homosexuels.
Qui?
Cette association.
Non, c'est des féministes.
Ouais, mais elles peuvent être homosexuelles.
Oui, oui, c'est pas la question.
Non,
est-ce que vous êtes féministe, tiens?
Je suis féministe.
Ouais.
Mais non, moi j'aime le cul, j'aime les seins, j'aime, j'aime tout ça.
Alors, les pitchounes, le chemin est long. Le chemin est long, hein. La route est droite, mais la pente est forte, comme disait maître Jean-Pierre Raffarin. Mais on s'accroche, on est tous ensemble, on est une équipe. Alors, d'accord ou pas d'accord de supprimer le concours de Miss France?
Non, pas d'accord. De toute façon, Miss France, je vois pas pourquoi elles veulent supprimer, ça existe depuis l'Antiquité. Et voilà, hein, c'était en Grèce antique, la beauté, c'était quelque chose de... Maintenant, peut-être que ces féministes, elles sont moches, grosses.
Alors là, la pente est forte, hein, la pente est forte, j'avais dit les enfants, c'est par Jupiclas. Bon, c'est pas Jupi très très classe aujourd'hui, mais c'est comme ça. C'est donc le concours de Miss France, et donc donnons la parole quand même à une femme.
Mais ça fait, je sais pas combien de temps que ça existe, les Miss France, et je vois pas pourquoi d'un seul coup on les supprimerait. C'est des femmes qui disent ça ou des hommes?
Des féministes.
Des féministes. Peut-être qu'elles sont jalouses, c'est tout.
La pente est très forte. La pente est très, très... Je vous cache pas qu'on est dans l'Alpe d'Huez, hein, actuellement, voilà, avec un vent contraire, une roue crevée, et Jean-Marie Bigard qui s'accroche au porte-bagages. Alors, heureusement, les enfants, je vous rassure quand même, j'ai pas rencontré que des gens qui aimaient le concours de Miss France. J'ai aussi rencontré des gens qui ne regardent plus du tout, et notamment Roger. Eh oui, Roger boycotte, mais ça va peut-être vous surprendre. Pas tellement pour cause féministe, c'est parce qu'il trouve ça trop frustrant.
Parce que moi, j'aime bien toucher pour voir les formes des jeunes filles, mais là, tu...
C'est vrai qu'on peut pas les toucher.
C'est ça que c'est admissible. Le jour, je me trouve rue de la guerre, et puis la dame, elle est en train de... Les coussins, les changer de place.
C'est une dame qui vendait des coussins?
Oui, c'était un magasin.
Ouais.
Puis j'ai dit à la dame, je dis, moi, j'en ai pas besoin, j'ai les deux seins de ma femme, je me mets au milieu, ça vous tient chaud.
Bon. Alors, ben, fallait pas non plus compter sur Roger pour se déconstruire en une semaine de vacances. À mon avis, ce sera le dernier, hein, Roger. Hein. C'est vraiment le résistant ultime. C'est le Raymond Aubrac du wokisme. Mais bon, Roger, quand même, il dit... Non, mais...
Si, bah, si,
c'est vrai, mais il a une analyse.
On
ne
le récupérera
analyse.
Plus.
Et il a le droit de vote, je vous le rappelle, surtout. Il dit, il faut pas discriminer. Il aime toutes les beautés, Roger.
Mais non, mais t'as de belles femmes partout, écoute. T'en as de jolies. Le jour, j'ai encore aperçu une dans le coin... Ah, ça met à genoux. Non, mais ce qui me dégoûte de plus, c'est soit avec des noirs.
Ça, vous me l'aviez déjà dit, Roger.
Ouais.
Pourquoi, alors?
J'ai assez de blanc, quand même. Non, je suis pas d'accord.
Alors ça, c'est vraiment un des drames de Roger. Alors il y a deux drames, hein, chez Roger. Il y a l'élection de Mitterrand en 81, ça il s'en remet pas. Et toujours un petit peu en PLS. Et que des jolies filles blanches sortent avec des noirs. Voilà, ça lui fout un somme. Mais pas possible, mon vieux. Mais sinon, Roger, il est heureux. Il regarde plus Miss France, mais il est pas contre le concours, évidemment.
Non, moi je dis que c'est pas mal. C'est comme l'autre connard, là. Dans le Tour de France, il voulait plus y être femme. Qui donne les gerbes. Hein.
Les hôtesses.
Oui, les hôtesses.
Est-ce que c'est pas sexiste?
De quoi? Ça me dérange pas quand c'est beau.
Oui, mais est-ce que c'est pas justement misogyne? Est-ce que c'est pas...
Je sais pas, est-ce que ça veut dire misogyne, moi, je sais.
Et voilà.
Et on n'est pas tellement surpris. Ah, on ne tombe pas le cul de sa chaise. Alors, misogyne, sexiste, bah, par exemple, bah, c'est le fait, on en a parlé, qu'à partir de ce mercredi, les femmes bossent gratuitement, si on tient compte des écarts de salaire. Donc, merci les meufs, hein, bisous les pitchounettes. Et comme dirait Camaro, femme, t'es belle quand tu chantes, t'es sexy. Miss, my baby.
Guillaume Meurice. Guillaume Meurice et Roger.
Et Camaro.
Et Camaro. Ouh là là, il y a bien d'autres, malheureusement. Dites-moi, Guillaume, oui. Tout le temps que vous passez avec Roger.
Oui.
Il n'a pas avancé d'un poil.
J'avoue que j'essaye.
Vous ne faites rien. Vous faites tout pour l'enfoncer, pour faire des sujets.
J'avoue que j'essaye. J'essaye de le sortir de
vous
là. Mais
quelque chose.
Mais il en démord pas. Je crois que c'est peut-être trop tard. Hein, possiblement. Ouais, j'arrive un peu tard sur le dossier. Ouais,
merci Guillaume.
Ben, je vous en prie.
On passe aux exercices.
Bien sûr. On a beaucoup parlé du G20 cette semaine, les pitchounes. Saurez-vous me dire à quoi sert le G20? Le G20, A, réponse A, sert à passer un week-end entre potes, boire des coups et lancer des pièces dans une fontaine. C'est un peu Breaking Bad. Voilà, réponse B, le G20 sert à favoriser la stabilité financière internationale, à créer des possibilités de dialogue entre pays industrialisés et pays... Non, ça, c'est pas ça. Réponse C, le G20, c'est ce que dit une personne enrhumée qui a envie de manger. G20.
Ah oui.
D'accord, on en est là, quoi. On en est là.
Bah si, parce qu'au début, on se dit, tiens, c'est pas marrant. Et quand on l'entend,
C'est en deux temps,
voilà,
en fait.
C'est vraiment...
J'imagine qu'il y a une réponse D pour nous gratifier d'une réponse D.
On était au bout, hein, vous rendez bien compte avec la qualité de la C que le G20 sert à dépenser moins sans aller loin. Et maintenant, vous connaissez le slogan et je suis obligé de dire Monoprix et Lidl derrière.
Merci. Ouais. Alors, hier, vous savez que Nicolas Sarkozy a été contraint d'aller témoigner devant le tribunal dans l'affaire des sondages de l'Élysée, mais il est resté muet. Alors, pourquoi ne l'a-t-on pas entendu? Petit A, il a une extinction de voix que lui a refilé Carla Bruni. Petit B, il n'a que deux chevilles. Il n'a plus de place pour un troisième bracelet électronique. Et au poignet, c'est hors de question, ça jure avec la Rolex. Petit C, il avait oublié ses talonnettes et le micro était trop haut. Donc on ne l'a pas entendu. Mais on peut.
Attendez, on peut.
Bah oui.
Bah prévenez-moi si on peut.
Celle-là,
depuis le début de l'année.
Je vous explique après. Okay. Petit D, il se cache derrière son immunité présidentielle.
Alors,
Nicolas Sarkozy, moi j'estime qu'on peut,
oui.
Parce qu'il veut se grandir tel un De Gaulle.
Métaphoriquement, vous voulez.
Voilà, et c'est pourquoi Pierre Kroll, qui est un excellent dessinateur, le dessinateur belge du journal Le Soir, l'a toujours représenté avec des talonnettes. Parce qu'il y a chez lui une volonté
ça
de se faire plus
chose,
grand. Ça dit quelque chose du personnage.
Dès que quelqu'un complexe sur son physique, on peut l'attaquer sur son
non,
physique.
Non, c'est pas complexe. Justement.
Est-ce que c'est Roger qui vous a
complexé? Non, par exemple. Non, autre exemple, quand Gérard Larcher dit aux Français, il faut que les Français se serrent la ceinture, pardon, j'imagine Gérard Larcher faire un 100 mètres V, c'est tout.
Ok, non, mais attention.
Maintenant, il faut expliquer les choses, hein, parce que sinon.
Vous avez un exemple de la gauche? Parce que là, c'est comme par exemple de gens de droite.
Il y a un exercice pour Guillaume.
Oui, alors. Je vais vous sortir de là. Alors, mon exercice...
Le petit pot à tabac, on avait le droit ou pas?
Alors, mon exercice, calmez-vous. Sur le Covid, vous avez suivi le Covid? Quelle histoire, ce truc.
Reprenez.
Oh là là, Covid, c'est une maladie. Alors, la France a commenté... Restez concentrés. La France a commandé une nouvelle pilule anti-Covid. Mais à quoi d'autre doit-on s'attendre? Réponse A. Charline, vous n'êtes pas avec moi. Réponse A. Un numéro vert anti-Covid. Vous l'appelez, hop, plus de Covid. C'est possible. Réponse B. Il n'y a pas de jeu de mots tout le temps. Hein. Cherchez pas les jeux de mots non plus. Réponse B. Une boisson anti-Covid. Le Covin chaud. Et comme c'est chaud, il n'y a pas d'alcool dedans. Selon une personne que je connais bien, Vanunaker High School. Réponse C. Des patchs anti-Covid à coller sur le corps ou sur les poils, selon que vous soyez un humain ou André Manoukian. Réponse D. Une application mobile anti-Covid qui fonctionne en Bluetooth avec votre puce 5G et qui télécharge le nouvel album de Francis Lalanne. Et dedans, il y a une bonne réponse. Et je la connais pas.
C'est Guillaume.
Alors, on a perdu Charlie.
En train d'imaginer Gérard Larcher se
servir. Non, c'est pas ça. J'étais en train de boire et j'étais à deux doigts de recracher dans ma tasse. Je peux pas faire ça parce qu'on est filmé. C'est horrible, la radio filmée. Sinon, j'aurais recraché dans la tasse. C'est ça où je crevais, quoi.
C'est quand j'ai dit G20 ou non?
Allez, aïe. Je me reprends. Je suis là, chers auditeurs. Je suis là, je me reprends.
Tout ça avec la redevance.
Fort de son 1m88, il a beaucoup de hauteur de vue sur la société. C'est pour ça qu'il chronique debout. C'est pour la garder. Allez-y, lancez votre gimmick. Jamil le schlag.
Eh hey, les gars, c'est incroyable. Vous vous rappelez du Parti Socialiste? Ah bah si si, je vous jure, ça existait. Même que c'était un parti de gauche. Avec de grands hommes. Jean Jaurès, Lionel Jospin, Manuel Valls. Oula, mais qu'est-ce qu'il fout sur la liste? Bah non, lui, son surnom dans le milieu, c'est Recto Verso. Bah le gars a pas de parole. En 2017, après sa défaite à la primaire, vous ne m'avez pas choisi pour être votre candidat. Mais c'est pas grave. Porque yo soy un espagnol. Cuantos locos, los tres puntos. Tengo la camisa negra. Bah, Manu, la chemise brune, ça le dérange pas. Wouh, vanne, valeur actuelle. Non, mais les gens, ils ont pas honte. Ils percent pas en France et ils se replient sur leur pays d'origine. C'est comme si moi, après un échec ici, je déboulais sur les ondes de Oujda. Salam alaikum, ya louled. Redin aoudlek, chi haja. Incroyable. Mais bordel, Valls, il était quand même Premier ministre de la France. 6e puissance mondiale. Il finit consultant chez BFM TV. Mais ressaisis-toi, mon grand. Tu vas faire quoi demain? Le télé-achat? Non, mais franchement. Regardez, Marie-Ange, cet extracteur de jus qui respecte la laïcité. Oula, pardon, Marie-Ange, les vieux réflexes qui reviennent. Non, mais sérieux, consultant BFM. Écoute-moi, Manu. T'as été un homme politique nul. Et tu reviens faire la leçon aux autres politiques. Bah, on dirait Jérôme Rotten dans l'after-foot. Et puis, gauche et droite, même combat. Hein. Ah bah, il n'y a qu'à voir. Xavier Bertrand, exceptionnel. Le mec a carrément rendu sa carte du parti en disant qu'il irait seul à la présidentielle. Un an plus tard, pas de budge, pas de buzz. Il est revenu. Par souci d'unité, je reprends ma carte, parti. Bon, bah, chez les politiques, il y a au moins un domaine où la parité est respectée. Le manque de parole. Anne Hidalgo a promis que si elle était élue maire de Paris, elle ne serait pas candidate à la présidentielle. Un an plus tard, pas de budge, pas de buzz. Par souci d'unité, j'ai décidé d'être candidate. Wouh, Nicolas Cage dans Volte-Face. Alors, pour moi, la parole donnée, c'est quelque chose d'important. J'ai grandi avec des gitans. Pour eux, la parole, c'est sacré. Tu sais, ils arrivent vers toi, ils te serrent la main en te regardant dans les yeux. Salut, monsieur le maire. Ah, regarde comment qu'il est ma star, lui. Ah, bah, à compter d'aujourd'hui, on s'installe ici, mon cousin. Bon, bah, tu sens que tu vas pas revenir sur la négo. De toute façon, depuis que Jospin a quitté le navire, c'est le déclin. Lui a tenu sa parole. Il a dit qu'il se retirait de la vie politique et il est jamais revenu. On se souvient tous de son discours le 21 avril 2002. Je vous ai compris. Oula, bah je suis pas mauvais en histoire. Cursus scolaire exemplaire. 4e techno. BP bois. Bon non, mais l'autre jour j'ai bien réfléchi. Et le problème du PS en fait, c'est que bah ils sont nuls en fait. Ils avaient tout, les régions, les départements, ils avaient même des locaux rue de Solferino, dans les plus beaux quartiers de Paname. Maintenant, ils sont dans un F2 humide à Ivry-sur-Seine, entre le carouf et la plateforme du bâtiment. Non mais, vous vous êtes fait arnaquer, c'est qui votre agent immobilier? Jérôme Cahuzac? Merci de m'avoir écouté. Merci.
Jamil Le Schlag, merci Jamil. Venez vous rasseoir pour me confirmer que vous êtes toujours à l'Apollo Théâtre.
Oui, tous les vendredi et samedi à 20h et 21h30. Wow.
Ah,
et on double vu que c'est complet tout le temps.
Oh là là, Jamil Le Schlag. Merci Jamil. À venir, Léo Carman avec nous. Et un petit dessin. Vous êtes sur France Inter. ça va, je vous dérange pas? Je voudrais juste désannoncer Silk Sonic, ce qui est pour les auditeurs que ça intéresse et qui ont écouté la chanson. Voilà.
Est-ce qu'il y a encore des auditeurs? Est-ce qu'on est sûr de ça?
Je ne sais pas, j'ai l'impression que...
Écrivez-nous peut-être.
Tweetez, hashtag par Jupiter, vous dire que vous êtes encore là, parce que moi je suis inquiète, hein, franchement. En tout cas ici, tout part à volo, je vous le dis tout de suite. Ça part à volo, je ne sais même plus où on en est. Si, je sais. Sais ce qu'on fait, c'est parce que c'est le moment de la Jupi Masterclass de cinéma. D'un jeune réalisateur qu'on aime beaucoup. Voici le film que vous avez choisi de partager avec nos auditeurs, mon cher Léo Carman.
Alors salut tout le monde, je voudrais d'abord remercier Charline de sa confiance renouvelée après sa première invitation il y a un an et demi, où la question de savoir ce que je pensais de ce virus chinois et de s'il fallait s'en inquiéter, vous avez répondu.
Il y a moins de morts pour l'instant que la grippe hivernale, c'est bien ça. Donc est-ce que c'est pas quelque chose d'un petit peu exagéré?
Voilà. Donc n'hésitez pas à me consulter. Les prochaines fois, vous avez besoin d'une analyse éclairée de l'actu. Et en attendant, je vais pas trop me risquer, hein, en vous parlant d'un vieux truc. Ah, est-ce que vous aussi, ces quelques notes vous ramènent à des souvenirs nostalgiques de Noël en famille ou à des traumatismes d'abandon cruel? C'est normal, c'est le thème principal de Maman, j'ai raté l'avion qui est sorti en France en 1990. Quelle ambiance magique il y avait quand même dans ce film. Je me rappelle que quand je le regardais, je me disais que Noël avait l'air vachement mieux chez les riches cathos américains. Parce que chez moi, on est passé très vite au sapin en plastique, déjà. Parce qu'au moins, ça foutait pas des épines partout. Après, on s'est dit, mais pourquoi se faire chier à descendre à la cave le chercher? On a qu'à mettre des guirlandes dans le ficus. Et puis, parlons pas du fait qu'on s'est rapidement offert les cadeaux le 24, voire même le 23 au soir. Parce que bon, c'est con, ils sont là. Pour rappel, le film raconte l'histoire de Kevin, un petit blondinet de 8 ans, chétif et innocent, avec la vie devant lui, que sa mère oublie le jour du départ en vacances de Noël. Alors déjà, comment c'est possible? Je pense que c'est la première chose qu'a dû verrouiller le scénariste. Quelle bonne idée trouver pour que l'Amérique puritaine ne déteste pas cette mère indigne. Alors, faire de Kevin un garçon insolent pour qu'il mérite d'être puni? Ou inventer qu'un orage coupe l'électricité et les réveils pour que tout le monde soit hyper pressé et oublie de le réveiller? Ou alors carrément se tromper dans le conte des enfants? Allez, mettons-les toutes! Comme ça, c'est un concours de circonstances vraiment malheureux. La morale est sauvée, maman n'a pas fait exprès. Mais, et le père dans tout ça? Qu'est-ce qu'on en pense du père? Quand même, un enfant, ça s'oublie au moins à deux, non? Et ses frères et sœurs, une fois dans l'avion, ils se disent pas qu'ils ont un frère en moindre hier soir et ce matin? Non, à la place, on console maman. On lui dit que c'est pas de sa faute et qu'elle pourra attendre des heures toute seule à l'aéroport pour prendre le premier avion retour, pendant que tout le reste de sa famille ne change pas ses plans de vacances. On se croirait dans les petits mouchoirs. Mais surtout qu'elle ne s'inquiète pas pour lui, parce que quand les voleurs arrivent et que Kevin se planque sur son lit, voilà sa réaction.
Je suis ridicule. Il n'y a que les poules mouillées qui se cachent comme ça. Et je ne suis pas une chiffre molle. Il faut que je défende ma maison.
Mais non, mec. Non. Reste planqué, putain. Rappelle-toi tes ateliers antiterroristes à l'école. Quand on a 8 ans et que des voleurs menacent notre maison, on reste sous le lit. Et on appelle les flics avec son iPhone 13. C'est ça, la vraie vie. Pourquoi jouer les téméraires, là, à se battre avec des ciseaux Muppet contre des pauvres voleurs, s'il est bon d'appeler comme ça deux malheureux sans aucune malice, qui pour mettre de l'essence dans leur pauvre van sans chauffage le jour de Noël auraient piqué 3 bibelots de l'immense fortune amassée par tes parents? Mais parce que Kevin, comme moi, et une grande partie des enfants de ma génération et de celles qui ont suivi, tu as grandi avec les mêmes films, ceux qui valorisent le courage extraordinaire des enfants, qui sauvent les aliens perdus sur Terre, qui conduisent des pousse-pousses à travers Shanghai avant de se battre dans les temples maudits, qui font de la gym contre des dinosaures, mais ou encore qui parviennent à retrouver leurs potes avant tout le monde dans l'Upside Down, ce monde à l'envers si terrible et froid où la nature est encore une fois montrée dangereuse et hostile. Ces films qui montrent les enfants comme les seuls qui comprennent ce qui se passe quand les adultes sont largués, les seuls qui ont un cœur quand les adultes n'en ont plus, les seuls qui savent s'émerveiller, espérer quand les grands sont désabusés, perdus d'avance. Or, il est temps que ces adultes qui nous ont tant mis sur les épaules reprennent leurs responsabilités. Il est temps que ceux qui nous dirigent et nous prennent pour des enfants assument le rôle de parents qu'ils se sont donnés. Il est temps que les gendarmes du monde arrêtent les pyromanes de la planète avant de nous gronder, nous et nos petites cabanes qui brûlent. Et enfin, quand chacun sera à sa place, seulement alors, les enfants pourront grandir.
Merci Léo Carman. Et joyeux Noël!
Joyeux Noël!
Nous sommes en direct. Il est 17h58 pile d'ailleurs, si vous voulez voir.
Sinon, je vous conseille de le revoir. Il est vraiment, c'est un très beau film en fait.
Mais oui,
vraiment,
c'est une très bonne
idée.
C'est
pas dédié du tout.
Vous l'avez vu au moment de sa sortie, Léo, ce film?
Non, j'avais un an.
Désolé.
C'est vrai que vous êtes beaucoup plus jeune, c'est vrai. Ma collègue Culkin a 41 ans.
Absolument.
Cette année, c'est vrai. C'est
et son traumatisme d'abandon s'est senti.
Oui. Merci beaucoup, Léo Carman. Et si on veut revoir votre premier film, La dernière vie de Simon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je le recommande aussi très, très chaleureusement. Et puis on attend votre prochain film dans 2 ans. Alors. Bon, on espère. espère vous recroiser d'ici là quand même. On va passer au dessin, les amis. Voilà ce que je vous propose, c'est de profiter du rangement de votre chambre pour rassembler des petits objets. Tu rassembles des petits objets que tu n'utilises jamais, et à l'aide de ces objets qui ne servent à rien, tu formes l'acronyme COP26. Voilà. Et après, tu prends en photo ton logo en matière recyclée, donc, hein, et tu nous l'envoies sur Twitter, hashtag par Jupiter ou par courriel. Voici l'adresse parjupiter@radiofrance.com.
En difficulté, dans quelques semaines, vous allez dire alors, construisons un avion, tous ensemble. C'est l'exercice.
Eh ben, pourquoi pas. Voilà. Merci à tous, les amis. Vous étiez beaucoup trop en forme. Je suis épuisée, mais je serai ravie de vous retrouver demain. Alex, demain, je ne serai pas là. Ce sera Juliette et nous recevrons l'essayiste et romancière Titiou Lecoq. Et c'est vrai qu'après Victoire Touaillon, ça fait quand même deux féministes cette semaine. Hein.
Vous avez pensé à nos concitoyens masculins?
On les emmerde.
Ben voilà qui vient parler, Gisèle, on les emmerde.